Donc nous allons reprendre nos études dans Romains, l'épître de Paul aux Romains. Donc nous sommes au chapitre 4, Romains chapitre 4. Et nous allons lire les 12 premiers versets, Romains chapitre 4 et les 12 premiers versets. Vous remarquerez que dès le verset 1, il nous dit « Que dirons-nous donc ?» Donc est une conjonction de coordination et qui lie ce qui va se dire à ce qui vient d'être dit. Hein, donc, en fait, le chapitre 4, c'est la continuité du chapitre 3. Hein. Donc, Romains chapitre 4, et je lis à partir du verset 1. Il dit « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu ?» Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour la justice, pour que la justice leur soit aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Voilà, donc il continue, hein, vous vous souvenez, depuis le début du chapitre, du livre, et là il parle aux Juifs et puis il parle aux païens, et en fait jusque-là il nous a dit, il n'y a pas de distinction, il dit les deux sont pécheurs, les deux ont besoin d'être sauvés, les deux ont besoin de l'œuvre de Christ, les deux ont besoin de croire, qu'on soit élevé sous l'entente et sous l'enseignement de la parole, ou qu'on ne le soit pas, on est pécheur quand même. Hein? Et donc, il dira dans le chapitre 3, verset 23, et nous l'avons lu la dernière fois, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc, tous ont péché, mais la rédemption est là. Le péché est là. Hein, la maladie du péché est en nous. Elle est installée. Et il nous faut une antidote. Et la seule antidote, eh bien, c'est le sang de Christ. Hein, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Mais merci Seigneur qu'il y en a une. Hein. Je lisais un article sur les antibiotiques et puis il a dit, bon, au fur et à mesure de les utiliser, finalement, on commence à avoir ils sont sans effet. Et parfois, ils ont réduit à un seul qui lui reste, qui pourrait utiliser. On est reconnaissant pour le seul qui soit encore utile. Ben, là, pour le péché, eh bien, il y a une antidote, c'est le sang de Christ et pas autre chose. Et puis ce que vous avez remarqué dans ce verset 23, c'est qu'au verset 24, il nous disait, et il n'y a point de distinction, verset 22 je veux dire, il dit, j'ai justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Donc, c'est quelque chose qu'il répète depuis le début. L'apôtre Paul, c'est quelque chose qui c'était à l'époque, c'était quelque chose que les Juifs avaient du mal à recevoir, ils étaient pareils, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Et parfois, il peut nous arriver, nous aussi, dans notre contexte judéo-chrétien, de croire que nous, parce que nous avons la Bible, parce que nous avons, que finalement, nous sommes un peu mieux placés que les autres. Oui, dans le sens que on a plus facilement accès, et encore, c'est pas sûr ici en France, que tout le monde arrive à trouver l'Évangile. Mais deuxièmement, c'est bon, on entend parler de Jésus. Je dis à ceux qui sont élevés par exemple dans l'Église catholique, j'ai dit, mais remercie le Seigneur, parce que pour toi, ce n'est pas un problème que Jésus soit fils de Dieu, pour toi, ce n'est pas un problème que Jésus soit mort sur la croix, c'est déjà un avantage par rapport à des musulmans. Hein, c'est déjà là, tu as été éduqué dedans, tu es un peu, dans un sens, tu es déjà un peu convaincu. Et donc, il n'y a pas cette difficulté. Donc, remercie le Seigneur pour cela. Mais ce n'est pas pour ça que ça suffit. Hein, il faut aller jusqu'au bout. Mais je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, hein, moi-même, hein, je suis né là-dedans. Il y a eu un jour où, tout seul dans ma petite chambre, eh bien, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Hein, et je me souviens de ce jour. Hein, et tu avais... mon frère avait mis le feu à la chambre des parents, et donc ça m'a fait peur, et ça m'a travaillé, surtout quand c'était le lit, et puis moi, maintenant, j'avais peur de dormir, et ça me travaillait, et je savais que c'était vrai, mais bon, mais avec ça, j'ai cédé, et j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Depuis, j'ai pas regretté, hein. C'est nécessaire, hein, même si je n'ai entendu que ça depuis ma naissance. Mais il fallait faire cette démarche, c'est de demander au Seigneur de me sauver. Et donc, il nous dit, et c'est une chose qui est là pour tous ceux qui croient. Hein, donc, c'est pas une éducation qu'il faut, c'est seulement entendre l'information et la recevoir, la croire. Croire, on peut facilement remplacer le mot croire parce que dans l'usage courant, on dit « je crois ». Et parfois, on exprime du doute. Le fait de ne pas être entièrement sûr. Si, je crois que... croire, c'est le mot croire. Et dans le grec, c'est le même mot que confiance. Hein, avoir confiance, croire. C'est-à-dire, j'entends quelque chose et je mets confiance en cette chose. Et c'est donc c'est une question de croire, de faire confiance à ce que Dieu fera ce qu'il promet. Il l'a dit, et je lui fais confiance, même si je ne sais pas comment il va le faire. Et la justification devant Dieu, eh bien, ne s'obtient pas par les œuvres, pas par des choses que nous pouvons faire, par des choses que nous pouvons faire pour lui, des choses qui sont considérées comme bonnes œuvres. Ça ne suffit pas. On peut pas, parce que on peut pas échanger ça contre ce que Dieu a et nous propose. Vous savez, croire n'est pas une œuvre. Hein, des fois, il y a des gens qui commencent à dire, ouais, croire, ça veut dire c'est quelque chose que tu fais. Non, croire n'est pas une œuvre. Croire, c'est reconnaître que la chose est. C'est croire, c'est ce qui permet de déclencher la grâce de Dieu envers nous. Hein, c'est lui permet d'agir. C'est un peu, je peux dire, les avions ça vole, mais pour vraiment montrer que il faut monter dans l'avion et puis partir. Et c'est là où on montre que vraiment qu'on croit. Hein. L'exemple que j'avais entendu une fois, c'était quelqu'un avait tiré un câble sur les chutes du Niagara, et puis cet équilibriste est monté, et puis il a commencé, pour lui, que ce soit au-dessus des chutes, que ce soit à 1 mètre ou que ce soit à 100 mètres, c'est pareil. Hein. Une fois qu'on est équilibriste, normalement c'est pareil. Et il a fait ça sur les chutes du Niagara, tout le monde est là dans l'admiration et tout ça. Après, il a demandé à la foule, il a dit, écoutez, vous croyez que je peux... passer sur ce câble avec une brouette. puis, oui, puis il a pris, il est allé avec la brouette, il est revenu sans problème. Il a dit, vous croyez que je peux mettre quelqu'un dans la brouette? Ils ont dit, bon, certainement, hein. Et il dit, qui veut monter? Hop, là, tout d'un coup, oui, bon, c'est pas vraiment croire, hein. C'est quand je suis prêt, hein, si je crois vraiment, je suis prêt à me mettre dans la brouette et puis je dis, vas-y, traverse. Hein, mais c'est ça, croire, c'est vraiment faire confiance. Et donc, là, croire, hein, vraiment, croire, c'est dire, je te fais confiance, c'est pas, oui, bon, bah, d'accord, oui, j'ai entendu, hein, oui, c'est bien. Non, non, c'est vraiment, je fais confiance et je compte dessus. C'est un peu, c'est comme ce billet d'avion électronique maintenant, hein, c'est du papier, c'est mon imprimante, c'est ma machine, et tout ça, c'est mon petit bout de papier là, et je vais confiant à l'aéroport, et puis je présente ça, puis je suis prêt à partir n'importe où. Mais c'est parce que j'ai un peu confiance, hein. Sinon, je me dis, mais ça ressemble à n'importe quel autre papier que j'imprime, hein, c'est pas... Non, c'est des actes de foi, on en pratique tous les jours, tout le temps, hein, dans toutes les situations, sauf quand il s'agit de Dieu. Et c'est pas parce qu'on comprend mieux les choses de tous les jours qu'on fait confiance, non, c'est parce que ben, ça a marché la dernière fois, ça marchera. J'ai vu d'autres le faire, ben, y a d'autres qui ont reçu le Seigneur et qui ça a changé leur vie, alors voilà, fais leur confiance. Fais confiance. Et vous savez, Dieu, cette foi ben, nous permet d'accéder à tout ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Il a dit, écoute, quand tu me fais confiance et tu me pries et tu me demandes cela, eh bien c'est comme si tu appuies sur le bouton et tu déclenches tout et tout tombe. Hein, c'est tout ce qu'il a préparé, il l'a préparé, il le veut pour nous, et là, je ne suis pas en train de... l'obliger à me faire quelque chose ou lui faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, rien du tout. Il veut le faire, il a tout préparé. Hein, c'est seulement, il me dit, écoute, serre-toi. Dieu ne téléguide pas certains vers lui, mais il les attire par son grand amour, hein, l'amour qu'il a manifesté sur la croix. Vous savez, le brigand qui était, l'un des brigands qui était avec lui, le brigand, il ne pensait pas du bien de Jésus au début. Hein, on le voit qu'il se moquait de lui et tout ça. Il s'était, bon, peut-être qu'il ne le connaissait pas, mais de ce qu'il entendait, de ce qu'il voyait, ben, bon, c'est un autre comme nous. Hein. Mais dans les 3 heures qu'il était là, eh ben, il a changé d'avis parce qu'il a vu quelque chose chez Dieu. Vous prenez aussi le centenier qui était au pied de la croix. Et lui, bon, il a son idée aussi, hein, idée préconçue par rapport à tous ceux qui sont amenés, tous ceux qu'on doit crucifier. Hein, il a son idée par rapport, bon, c'est un fanatique, peut-être, voilà, il est venu. Mais au bout des 3 heures, il a changé d'avis. Il dit assurément. C'est qu'ils n'étaient pas préprogrammés pour reconnaître aussi, mais quand ils ont vu dans le comportement de Jésus quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Et c'est dans des circonstances les plus défavorables possibles, il a exprimé de l'amour et du pardon. Et ça les... Et le larron sur la croix, et le centenier romain, qui n'avait pas été élevé ni dans le judaïsme, ni dans autre chose, eh bien, quand il a dit ça c'est unique, c'est autre chose. Et il a reconnu. Et c'est en fait, c'est ça qui nous attire, c'est lorsque je lis la parole et j'étudie, je comprends et je dis, mais ça ne vient que de Dieu. Et je dis que je le reçois, je le veux pour moi. Et donc la dureté du cœur du larron ou du centenier, eh bien, n'a pas empêché de voir l'amour de Dieu. Et vous savez... Et combien nous avons, je pense, tous vu des exemples des personnes endurcies par la vie, par leur mode de vie, par ce qu'ils ont vécu, par les injustices qu'ils ont vécues, des personnes endurcies, mais qui peuvent être touchées par un geste d'amour. Et on arrive à voir les gens les plus durs, et puis il peut avoir une larme ou il peut avoir une réaction de tendresse. C'est extraordinaire. Quand on se trouve face à un geste de tendresse de la part de Dieu, eh bien, combien ça nous touche aussi. Des personnes très, très endurcies, très résistantes, eh bien, ont cédé devant l'amour de Dieu. Et la croix, elle est là, et c'est pour ça que la croix est un tel symbole de cet amour que Dieu a pour nous. Et Paul va nous proposer deux exemples de personnes très différentes l'une de l'autre, mais des personnes reconnues qui ont été justifiées. Donc, dans ce chapitre 4, il nous parle d'abord d'Abraham. Abraham, dans la pensée courante, eh bien, les gens disent Abraham, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme digne d'admiration, c'est normal que Dieu le bénisse, c'est un homme tellement bien, c'est l'idée générale qu'on a. Bon, c'est vrai que quand on commence à regarder de plus près les détails de sa vie, on voit qu'il avait quand même des défauts. C'est un peu, vous savez, j'ai lu ça cette semaine, j'ai dit, c'est extraordinaire. Il dit, comme vous, la différence entre les créations des hommes et les créations de Dieu, la grande différence, c'est que les créations des hommes, tant qu'on regarde de loin, c'est très beau. Quand on regarde de près et on passe la loupe, après on commence à voir des défauts. Tandis que l'œuvre de Dieu, la création de Dieu, quand tu le passes au microscope, eh bien, ça devient encore plus merveilleux. Quand on regarde les créations de Dieu et on voit l'infiniment petit, c'est aussi glorieux que l'infiniment grand. Et c'est là la différence de l'œuvre de l'homme et l'œuvre de Dieu. Donc, nous, il se peut que nous essayons de faire valoir devant Dieu des bonnes œuvres qui paraissent des gens, des voisins, de tout ça. Après, c'est plus difficile de faire croire à notre partenaire dans la maison qu'on est sans défaut. Mais pour les autres, on peut paraître. Mais quand on commence à scruter, c'est plus la même chose. Et après, on veut faire valoir ses œuvres, Dieu qui ne tolère pas l'imperfection, il ne peut pas. C'est pour ça qu'il dit, je ne peux pas à vos œuvres, même celles qui paraissent être les meilleures chez vous, mais ce sont des défauts, même celles qui sont bien intentionnées sont défectueuses, et je ne peux pas accepter cela. Alors, Dieu veut il dit, écoutez, la meilleure chose pour moi, c'est que je ne demande rien de vous et que je fasse tout. C'est comme celui qui se trouve devant un gros formulaire à remplir, tout ça, et dit, wow! Et puis finalement, la personne a dit, écoutez, chaque fois, vous êtes en train de recommencer parce que vous faites une faute. Laissez-moi le remplir pour vous. Elle dit, ah, merci, c'est ça que je voulais. C'est tellement compliqué. Mais c'est pareil devant Dieu. Je dis, mais Dieu, si j'essaye de remplir le formulaire correctement que tu me demandes de moi, j'arrive pas. Je ne fais que des erreurs. Tu ne veux pas le remplir toi-même. Et Dieu veut le faire. Vous savez, une différence entre lorsqu'une personne est accusée, elle a le choix. La justice lui donne un choix. Soit il plaide coupable, soit il plaide non coupable. Quand tu plaides non coupable, alors là, on applique toute la loi. Et la loi n'excuse rien. Quand on dit non coupable, alors là, on commence à faire ressortir les choses. Tandis que si je plaide coupable, je peux prétendre un peu de clémence. Ça, c'est chez les hommes même. Et même chez Dieu, si je plaide, je dis Dieu, non coupable. Moi, il faut que tu me reçoives. Il dit, je sors la loi. Et on commence à voir. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, tu en es où? Est-ce que tu as toujours mis Dieu en premier, cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que, et il peut commencer, est-ce que tu as toujours pardonné comme je te désire? Et puis, et après, il continue. Et puis, plus ça va, moins je me sens un peu, je me sens bien, je commence à me sentir mal à l'aise. Il dit, parce que tu plaides non coupable, alors bon, on va lire toute la loi. Tandis que si je plaide coupable, je dis non, je suis coupable, il n'y a pas de problème. Il dit, écoute, d'accord, bon, j'ai quelque chose à te proposer, on va arranger ça. Et je vais t'aider avec ton compte. Et c'est justement ce que là, Abraham, c'est un homme qui vient de Ur en Chaldée, où c'était le paganisme. Son père, c'était un idolâtre, et il a été élevé là-dedans. On ne connaît pas tout comment sa confiance en Dieu s'est développée, sinon c'est des restes qui ont été transmis par les pères. Mais ce qu'il nous dit dans Hébreux chapitre 11, il nous dit que c'est par la foi qu'il a quitté Ur en Chaldée. Il a exercé de la foi, hein, sans savoir où il allait, il a marché. Et ici, on arrive, il nous parle de ce moment dans Genèse chapitre 15, où il nous dit que Dieu parle à Abraham et dit « Abraham, tu vas avoir un descendant, un héritier. » Il dit « Mon seul héritier, c'est mon serviteur qui est né chez moi, dans ma maison, parce que, bon, il avait une épouse stérile, il n'avait pas eu d'enfant, il a dit, mon seul héritier, c'est celui-là. » Tu dis, non, c'est pas lui. Tu vas en avoir un qui est issu de toi. Comment, hein, c'était, même à l'époque, hein, on n'a pas les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, mais on savait que c'était pas possible, hein. Il dit, écoute, puisque tu le dis, ben, je le crois. Et c'est là où il dit, et Abraham crut à Dieu, et cela lui a fut imputé à justice. Il a dit, moi, je suis impuissant. Tu dis que tu peux le faire, ben, je te fais confiance et on continue. Et c'était pas plus compliqué que ça. Il dit, Abraham crut à Dieu, il n'a pas compris, il a cru à Dieu et cela lui a fut imputé à justice. Et donc, tout d'un coup, il était considéré par Dieu comme juste, sans péché. Dans Galates chapitre 3 verset 6, et je lis ce verset, mais Galates 3, 6, il dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, hein, ceux qui ont cru comme lui. Hein, » Donc c'est le père des croyants, mais parce que justement, il a fait confiance. Vous avez peut-être déjà remarqué dans ce passage qu'on voit plusieurs fois le verbe imputer. Hein, et comme c'est le verbe clé dans ce passage, eh bien, qu'est-ce que veut dire imputer, hein? C'est un terme comptable qui signifie, vous savez, les comptables et les livrets des comptables, ils ont des colonnes. Et chaque colonne, ça représente un compte. Eh bien, imputer, ça veut dire que je prends les choses d'une colonne et je le mets dans l'autre colonne. C'est ça, imputer. J'attribue. Hein, je prends d'ici et j'attribue là. Et souvent, le fait, c'est parce qu'il y a une colonne où c'est très débiteur. Ici, il y a un surplus. Là, c'est débiteur. Donc, on essaye d'équilibrer. On passe la somme de l'autre côté pour couvrir cette dette. Bien, vous savez, c'est un peu exactement dans la situation dans laquelle on se trouve. Moi aussi, ma colonne, normalement, sur la naissance, je suis très débiteur devant Dieu. Et tandis que Jésus-Christ, eh bien, lui, il a un compte qui est bien rempli. Alors, lorsque je reconnais devant Dieu que je suis débiteur du point de vue de ce que Dieu demande à cause de mon péché, eh bien, Dieu, dans sa grâce, il prend du compte de Jésus-Christ, de sa justice, et puis il le met dans mon compte. Et il éponge la dette, comme on dit. Et là, tout d'un coup, ah ben, cette colonne-là, il n'y a plus rien en rouge, c'est tout du noir maintenant. Hein, donc c'est ça, imputé. Et c'est ça que Dieu a fait pour Abraham, il a cru, Et donc Dieu a pris, il a dit, bon, je mets à ton compte, tu es considéré juste devant moi. Et c'est ce qu'il nous offre à chacun, il nous dit, et il le met par la foi, c'est à la disponibilité de chacun. Il y a personne qui est meilleur ou moins bien qu'un autre, et il le met à notre disposition. Et donc, tout ce qu'il demande, et c'est chapitre 4, verset 5, il dit, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Celui qui n'avance pas des œuvres, parce que ça passerait pas, ça ne passe pas, eh bien, qui fait par la foi, eh bien, Dieu lui impute la justice. Et avec cette justice-là, maintenant, je ne crains pas de me présenter devant le grand comptable, Dieu, et il regarde ma colonne, il dit non, mais tout est bon. Hein. Et donc, je ne crains rien. C'est ça l'évangile de Christ, c'est ça la beauté de l'évangile de Christ. Et c'est ce dont l'apôtre Paul, eh ben, il veut faire confiance, il dit, et c'est disponible à chacun et à tous. Le deuxième exemple qui nous est donné, c'est David. Et David aussi, lui, il avait une grosse dette. Parce que même s'il était le roi qui avait été oint par Samuel pour remplacer Saül, et donc il y avait, c'était un grand honneur, il a été élevé dans le judaïsme, il croyait en Dieu, il avait tout cela, mais il avait beaucoup de choses en sa faveur, mais il y avait un problème, parce qu'il parle de David après qu'il a commis le péché avec Bathsheba. Et là, David, tout d'un coup, quand il se réveille de ce qu'il a fait, ben il se rend compte, il dit, wow, je suis dans une situation maintenant qui est irréversible, irréparable, parce que selon la loi, déjà, il avait convoité la femme d'un autre, donc le 10e commandement, mais celui-là, il n'y a pas de jugement, hein, même si c'est un péché. Mais ensuite, il a commis l'adultère, et selon la loi, l'adultère, c'était la peine capitale. Ensuite, un peu pour couvrir son adultère, il avait fait mettre à mort, il avait fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Donc, c'est un crime, hein, même s'il l'a fait par le biais des autres, c'était lui qui l'avait programmé. Donc, et le crime, eh ben, la loi, c'était tu le tueras point, et celui qui tue, ben, il devait mourir. C'était la peine capitale. Donc, David... eh bien, il se trouve dans une situation où il n'y a rien qu'il puisse faire pour réparer le tort. Et dans le psaume 51, verset 18, il dit « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Il dit « J'avais rien à te proposer. » Parce que c'était très grave dans l'Ancien Testament, le péché volontaire. Il dit « J'avais rien de proposé, il n'y avait aucun moyen, il n'y avait aucune issue. » Et il dira dans le psaume 32, il a dit, mais j'étais il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Il dit, j'étais en souffrance à cause du péché et je ne pouvais rien. Il croyait que personne n'était au courant, et en même temps, il ne savait pas quoi faire pour s'en sortir de là. Ce n'est pas parce que personne ne le sait qu'on se sent bien. Et donc, David se trouve dans cette situation-là. Et vous savez, Nathan, le prophète, est venu le voir. Il dit, par le biais d'une petite histoire, il a dit, tu sais, tu es très coupable devant Dieu. Bon, c'était peut-être pas très agréable pour David de devoir reconnaître son péché et d'admettre que ce qu'il avait fait. Mais d'un autre côté, c'était un soulagement. Parce que Nathan est venu le voir pour montrer son péché, mais ensuite pour lui proposer le pardon de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je lis dans 2 Samuel 12, 13, il nous dit... David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Et donc tout d'un coup, il est pardonné. C'est pas, David n'avait rien à avancer pour obtenir le pardon, seulement il a reconnu, il a dit, j'ai péché. Et Nathan lui dit, Dieu te pardonne. Et donc nous arrivons dans ce Romains chapitre 4 et verset 7, hein, qui est une citation du psaume 32, il dit, heureux ceux dont les péchés sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Il dit heureux, heureux. Ah, il a dit, c'est un tel soulagement quand Dieu, eh bien, pardonne. Quand Dieu n'impute pas le péché, mais il impute sa justice. Et c'est un grand soulagement. Et donc, que ce soit Abraham dans sa situation, que ce soit David dans la sienne, que l'un ce soit issu de l'ignorance, que l'autre que ce soit issu, c'était volontaire. Mais dans les deux cas, à partir du moment que je reconnais mon état devant Dieu, je reconnais que je suis pécheur, et je dis, Seigneur Dieu, tu promets de me pardonner, Christ est mort sur la croix pour que tu puisses me pardonner, j'accepte, je crois, je fais confiance. Et le soulagement est total et réel. Et ensuite, à partir du verset 9 jusqu'à 12, Paul va relever un petit détail. Il va dire, je vais vous faire remarquer que Abraham, quand il a cru, il n'était pas encore circoncis. Parce que les Juifs faisaient un tel cas de leur circoncision, la circoncision, c'était qu'il les marquait à part, tout ça. Il a dit, je vous fais remarquer qu'Abraham n'était pas encore circoncis quand Dieu lui a dit qu'il a cru et que cela lui fait imputer à justice. Il était encore incirconcis. Et il dit, c'est ça ce qui est extraordinaire. Finalement, la circoncision n'a fait que confirmer son état devant Dieu, sa relation devant Dieu. Mais sinon, c'est pas à cause de la circoncision. Et cela, là, on peut mettre tous les rituels qu'on pourrait avancer pour essayer de d'assurer notre salut. Hein, il y a des sacrements qu'on appelle, c'est des rituels qui permettent d'un peu de cumuler des choses pour pouvoir être sauvé. Mais il dit non, mais tout ça n'a rien à faire. Ça, ça peut venir. On peut faire des choses par la suite qui ne font que confirmer le fait que tes péchés sont pardonnés. Mais il ne te pardonne pas les péchés. Il n'y a aucune œuvre que tu peux avancer. Il dit, c'est par la foi seulement. Et heureusement, heureusement pour nous. Et donc, il dit finalement, ce qui est merveilleux, c'est que Abraham peut être et le père des païens qui croient, comme le père des juifs qui croient, parce que il était avant et il était encore croyant après la circoncision. Donc, incirconcis ou circoncis, n'importe comment, il était justifié par Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il dit, il peut être le père de tous les croyants. Ça souligne le fait que nous sommes, c'est la foi seulement, plus rien. Hein, c'était un peu le slogan de protestantisme, mais c'était sola fide, hein, la foi seulement, hein, c'est rien de plus. Donc nous devons, et c'est ce que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 2, hein, et verset qu'on fait mémoriser aux jeunes tout le temps. Parce que c'est un passage très important, mais Éphésiens chapitre 2 et versets 8 et 9 nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il dit « c'est le pardon des péchés, si nous sommes sauvés, c'est une grâce que Dieu nous fait. On ne peut faire grâce qu'à des coupables. Hein. Jamais les gens innocents ne peuvent jamais bénéficier de la grâce. Mais les pécheurs, oui. Des gens qui plaident coupables peuvent bénéficier de la grâce, mais ceux qui plaident non coupables ne peuvent pas. Eux, c'est la loi, c'est le jugement, c'est la lettre de la loi. Tandis que celui qui plaide coupable, eh bien, peut jouir et bénéficier de la grâce. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, le moyen d'y accéder, hein, Dieu fait grâce, mais le moyen d'accéder à cette grâce, c'est par la foi. Il fait confiance. Il promet, je le crois. Et il a dit surtout, parce que je ne veux pas que quelqu'un se glorifie, parce que vous savez, ceux qui, hein, on le voit dans les religions, hein, ceux qui ont fait beaucoup de choses, ils sont un peu, ils se sentent meilleurs que les autres. Hein. Et dit afin que personne ne se glorifie, que Dieu qui est glorifié, quand c'est lui qui donne tout et tout vient de lui, après il n'y a qu'à lui qu'on rend grâce et s'il n'y a que lui qu'on remercie. Dans ce passage de Romains 4, donc l'apôtre Paul il dit, écoutez, peu importe vos origines, peu importe votre passé, peu importe dans quel état vous êtes, l'idéal c'est de reconnaître que vous êtes coupable, de plaider coupable, afin de bénéficier de Dieu son pardon. Et lui, il peut l'offrir. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. J'étais en train de lire le livre de John Stott sur la croix, et il dit c'est sur la croix, Jésus, quand il s'écrie « mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pas juste une formule comme ça, hein. C'est que c'était vrai. Et il le ressentait vraiment. Et pourquoi serait-il abandonné? C'est parce que le péché était sur lui. Le Père a dû détourner le regard de celui dont il avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » On peut aimer autant que vous aussi, mais quand Dieu voit le péché, il est obligé de tourner la tête. Mais pour moi, ça me rassure. Le fait que Christ et dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, d'un côté, c'est très triste, parce qu'on dit, wow, il a rien fait, et puis voilà ce qui lui arrive, à cause de moi. Mais ce qui me rassure aussi, c'est que les paroles d'après, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc, et c'était abandonné pendant un temps. Le temps que le péché soit réglé, et ensuite, il a retrouvé la communion, et il s'adressait à son père. Et donc, pour nous, pour moi, ça me rassure parce que, ah oui, le péché, il l'a porté. Et oui, ça a été réglé parce qu'il a pu. Et puis, il dit après, pour la résurrection, il dit je m'en vais vers mon père et votre père. Il a dit aux femmes, il a dit. C'était rétabli. Et donc, et puis la résurrection, ben, c'était la preuve que tout était réglé. Tout avait été réglé, parce que la force du péché, c'est la mort. Ben, il a vaincu, il a réglé le péché, la mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Je peux faire confiance que tout est bon. Maintenant, c'est une question de dire, il dit, ben, écoute, je ne t'oblige pas, mais je te propose quelque chose de très bien. Hein. Tu ne veux pas l'accepter, le recevoir. Et c'est une question de recevoir ce message, c'est ça, faire confiance. Hein, je comprends pas tout comment ça fonctionne, comment ça marche, et comment la mort de Christ il y a 2000 ans, ça peut. Mais bon, si lui le croit, hein, c'est. Eh bien, moi aussi je le crois. Et je lisais cette semaine aussi, vous savez, parfois par rapport aux bonnes œuvres, ça me revient là. Par rapport aux bonnes œuvres, vous savez, des fois, nous, on peut être content de nous. Oui, mais bon, c'est vrai, dans la jeunesse, je faisais, mais maintenant, ça va beaucoup mieux, hein, c'est pas la même chose. L'auteur que je lisais, il a fait remarquer, il a dit, vous savez, du point de vue scientifique, quand vous regardez dans le ciel, et vous voyez la lumière d'une étoile, il dit, en fait, vous n'êtes pas en train de voir l'étoile. Parce que cette lumière, elle a quitté l'étoile depuis des années. À des années-lumière. Il dit, toi, tu es en retard. Ce que tu es en train de voir, c'est ce qu'il y avait dans cette étoile il y a combien d'années, en fonction de l'étoile. Et dis-toi que c'est vraiment en retard. Tu n'es pas en train de voir cette étoile. Tu ne vois que ce qu'elle était il y a combien d'années. Il dit, mais supposons que maintenant, parce que vu la vitesse de la lumière et tout ça, il dit, supposons que maintenant, quelqu'un se mette sur cette étoile, ou sur une étoile, peut-être pas aussi loin que ça, mais sur une autre étoile, supposons qu'on dit qu'elle soit à 10 années-lumière. Il dit, supposons que quelqu'un se mette sur cette étoile-là, et puis regarde vers la Terre, et puis te regarde toi. Comme il y a 10 ans de décalage, en fait, ce qu'elle va voir, c'est ce que tu as fait il y a 10 ans. C'est encore en train de... En fait, nous, on croit que bon, c'était hier, hein, c'est passé. Hein, non, mais en fait, c'est en train de voyager encore. Et c'est pas fini. En fait, moi, je crois que... Moi, j'ai oublié, mais ce que j'ai fait est encore là. Et puis de nos jours, après, il y a combien de choses qui sont enregistrées en vidéo, après, il y a combien de choses qui sont enregistrées dans les pensées des uns, et puis il y a des gens qui se souviennent, la dernière fois qu'il m'a vu, j'avais 10 ans de moins, et donc l'image qui lui reste dans son esprit, c'est ce que j'étais il y a 10 ans. Et finalement, on n'est pas ce que... Hein, je ne suis pas que ce que vous voyez aujourd'hui. Hein, il y a des gens qui m'ont vu il y a 30 ans, et c'est ce qui leur reste. Quelqu'un à qui j'ai mal parlé... Et puis c'était la dernière fois, après ça, il ne voulait plus me parler. Donc tout ce qui lui reste dans son esprit, c'est ce que j'ai dit ce jour-là qui l'a offensé. Moi, je peux... Vous savez, après on vient se présenter à Dieu. Oui, Dieu, bah, Dieu, je ne suis pas mal maintenant. Hein, je me suis... Il dit, oh, j'en connais des gens qui en savent des choses sur toi. Hein, tout ce que tu as fait, ça existe, ça, c'est encore là. Vous savez, on n'est pas si merveilleux que ça. Hein, nous, on se trompe en croyant que... Non. Dieu, je ne veux pas savoir tout ça, quand je commence à penser à tout cela, oh, ça commence à être gros, hein, parce que déjà, ce que j'ai fait hier, ça me suffit, et ce que j'ai fait il y a 10 ans, et ce que j'ai fait il y a 30 ans, et puis pour certains d'entre nous, ça va encore plus loin. Mais il dit, Dieu, écoute, voilà, je viens à toi, je te fais confiance, prends de la justice de Christ, qui est dans son compte, et puis mets-le, éponge ma dette dans ma colonne. Et que la dette soit payée et que je puisse être libre devant toi. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et Dieu veut bien le faire. C'est ça qui est extraordinaire. Et il le met à notre disposition et nous devons le croire. Et le seul moyen d'avoir cela, c'est dire, Dieu, je suis un pécheur. Je crois que Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Et je te demande pardon. Et il pardonne. Et ensuite, David dit, heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Et c'est un soulagement. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur, pour ceux qui ont déjà ce pardon, eh bien, réjouissons-nous. Pour celui qui ne l'a pas, eh bien, qu'il vienne au Seigneur et qu'il le reçoive. Hein, c'est par la foi que nous pouvons être justifiés, comme Abraham, comme David et comme tant d'autres depuis. Nous allons prier et quelques moments d'abord pour que où nous pouvons